Sportez-vous bien.
Sportez-vous bien.
Sportez-vous bien. L'actualité sportive commentée par Jean Sureda.
Bonsoir, bonsoir à tous et bienvenue dans Sportez-vous bien sur Radio Présence. Nous sommes ensemble jusqu'à 20h et comme tous les lundis, les chroniqueurs et moi-même vous donneront les dernières infos sportives de la région tout en balayant l'actualité de la semaine avec des invités qui font le sport de haut niveau. Au programme ce soir, vous avez l'habitude, les éternels coups de cœur et coups de gueule de nos chroniqueurs. Lucas Serdic, pour son grand retour, vous donnera l'agenda de la semaine et avec le débat et ce soir le Stade Toulousain. Enfin, nous recevrons un invité rugby, joueur du TO 13, Paul Marcon, avec nous ce soir, Maxime Brossard. Bonsoir Maxime.
Salut.
Lucas Serdic, bonsoir Lucas.
Bonsoir Jean.
Et Timothée Rouvière, bonsoir Timothée.
Bonsoir Jean.
Le retour, messieurs, le retour.
Oui, le recours de Lucas Serdic.
The king is back.
Vous avez failli changer de coup de cœur, coup de gueule.
Ah oui, 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 au dernier moment, là, j'ai
une... C'est trop d'honneur, c'est trop d'honneur.
Bah, il nous a manqué, là, 2 semaines sans lui, on était perdus, hein.
Exactement. Comment allez-vous, monsieur?
Ça va très bien, ça va très bien.
Des nouvelles?
Des nouvelles.
Alors?
Des nouvelles.
Des nouvelles du petit qui arrive, qui se prépare.
Je vais enfanter.
Une fille, un garçon.
Une première pour la
science. Un garçon.
C'est un garçon.
Un futur chroniqueur.
Un chroniqueur qui va arriver dans 20 ans.
Oui, ouais,
même,
ou même moins.
15 ans, ouais, 15 ans, ça suffit. Le prend.
Je compte lui enseigner la parole vers 15 ans. Donc ouais, normalement,
15 ans, on peut le prendre.
On pourra y aller.
15 ans, on peut le prendre, ouais, fantastique. Timothée Rouvière, je me tourne vers vous parce que j'ai l'impression que. Alors, je vous promets, messieurs, dames, on est en direct. Parce qu'à chaque fois que je viens vers vous, Timothée Rouvière, vous êtes malade et je vous dis toujours la même chose. Vous êtes malade tous les week-ends,
Je ne suis pas malade, j'ai simplement une toux qui persiste. C'est différent. Je suis tranquillement.
En plus, c'est l'hôpital qui se fout de la charité. Mais pendant deux semaines, il nous a fait.
On est d'accord.
Ouais, il s'éloignait du micro comme ça, discrètement, mais enfin, tout le monde l'entendait.
Je suis pas malade, c'est juste que voilà, même en étant malade, moi je sors en t-shirt comme ça. Je comprends
c'est
pas
vrai,
trop.
C'est vrai que ça manque de manteau quand même.
C'est vrai, mais je mets jamais de manteau. C'est quelque chose que je me suis fixé. On sort toujours les bras.
Et après, on s'étonne d'être malade.
J'ai mis un beau t-shirt aujourd'hui.
Ouais, relatif, un beau t-shirt.
Un maillot du FC Sochaux. Ça
oui, enfin, je vois que les manches ont été quand même laborieusement coupées.
Mais par le joueur.
Par le joueur. D'accord.
En fait, il avait des maillots manches longues et il voulait un manche court.
Ah, mais c'est ce bon vieux Teddy, c'est ça.
Et ouais. Voilà,
la légende.
Exactement. Et Maxime Brossard, est-ce que ce soir vous allez mettre TF1?
Ah non, je suis pas l'agent, je suis pas à votre niveau quand même. Camping Paradis et je sais plus qui là.
Il y a Camping Paradis sur TF1.
Oh là là.
Timothée, on va regarder, c'est une évidence.
Je sais pas, moi je dis rien à l'antenne. Je ne sais pas ce que je fais. Alors, non, c'est pas une question de pas assumer ou je sais pas quoi. Mais on verra.
Hors antenne, il me dit oui, je vais regarder et tout. Et là, à l'antenne.
Mais c'est pour vous faire plaisir que je vous dis ça.
C'est vilain, monsieur Timothée. C'est vraiment
pour vous faire plaisir.
Je me tourne vers vous, Lucas, vous regarderez pas.
Non.
Même en replay?
Non.
En replay,
non.
Camping Paradis, c'est.
Moi, je pense qu'il faudrait me payer pour que je regarde, toi, et pas l'inverse.
Tout
ça, c'est affreux. Quoi.
Et cher, ça se réveille.
Ouais, mais c'est bien, c'est familial, c'est l'une des meilleures émissions.
Ouais, mais j'ai pas encore de famille, moi, c'est trop tôt.
Bientôt, oui, c'est vrai.
Bientôt.
Moi, j'espère que vous êtes prêts, messieurs. Nous, on démarre tout de suite avec les coups de cœur et les coups de gueule.
Sportez-vous bien, les coups de cœur et les coups de gueule.
Chaque semaine, vous nous parlez d'un événement qui vous a marqué. Cette semaine, c'est mitigé. Il y a un coup de cœur, un coup de gueule et un coup de larme.
Oui.
On va commencer par vous, Maxime Brossard. Sortez les mouchoirs.
Sniff.
On va parler d'un joueur de MMA, c'est bien ça?
Un combattant, plus précisément.
Un combattant.
Alors, d'habitude, je fais mes chroniques sans papier, mais là, c'est une grande première. J'ai pas pu faire autrement pour annoncer le départ à la retraite d'un immense combattant, Georges St-Pierre, le Canadien. La légende des sports de combat qui a 37 ans, il a annoncé qu'il arrêtait jeudi dernier. C'est un coup de larme, mais en même temps, c'est un coup de gueule, car l'UFC ne lui a pas offert la possibilité d'un dernier grand combat, on va dire pour des raisons de business, en fait. Et c'est aussi une erreur de la part de l'UFC, parce que son prétendant, qui était Khabib Nurmagomedov, qui est le combattant phare
c'est lui qui avait battu...
Qui a battu McGregor, ouais. Lui était très motivé pour l'affronter. Mais ça s'est pas fait, donc voilà, bref, c'est la fin c'est une légende qui s'en va. C'était un combattant hors norme, je rappelle rapidement ses stats, donc 28 combats, 26 victoires, seulement 2 défaites. Il avait été champion des poids moyens en 2017 en UFC en battant Michael Bisping. C'est aussi ceinture noire de karaté, champion de jujitsu, et c'est aussi un grand homme en fait. C'est vraiment un type qui était dans une autre dimension, humble, intelligent, respectueux de ses adversaires. D'ailleurs, il n'aimait pas ce terme d'adversaire, il disait plutôt... partenaire, car pour lui, le combattant qu'il avait en face de lui permettait de grandir. Mmh. Il a beaucoup lutté aussi contre le dopage, qui est un vrai fléau dans l'UFC, et il a rendu, on va dire, son sport plus propre et plus noble. Alors JSP, qui était son surnom, donc, c'était un peu le mec qui était capable de réduire en miettes son opposant et de vous parler de philosophie ou de paléontologie, qui sont ses deux passions en conférence de presse. Donc voilà, il a terminé, je vais reprendre une de ses phrases de sa dernière conférence de presse qui résume bien le personnage. Les choses qui me rendent le plus fier ne sont pas les grosses histoires, comme il a dit. Ce n'est pas l'argent ou la gloire qui m'ont motivé. Ce qui me rend fier, c'est par exemple quand je peux avoir une influence sur l'avenir et sur la vie d'un jeune.
Voilà. Donc voilà, c'est un bel hommage de la part de Maxime Rossard.
Il part à quel âge ?
37 ans, c'est ça ?
37 ans, ouais. C'est jeune ou pas pour un combattant ?
Pour un poids moyen, en fait. Hein. C'est-à-dire que c'est à la différence des poids lourds. Alors déjà, il y a deux différences. Il y a le fait que c'est du MMA, donc le MMA, c'est plus exigeant que la boxe, on va dire, en termes de conditions physiques. Et ensuite, il est poids moyen. Donc, chez les poids lourds, en boxe, on a généralement...
40 ans
on a jusqu'à 40 ans, on peut bien boxer. Même certains ont des pics de forme à partir de 36-35 ans. Mmh. Tandis que dans les catégories un peu plus légères...
Ouais, ça demande un peu de vivacité.
Voilà, c'est la vivacité, donc ouais. ça disparaît un peu avec le temps. Voilà.
On va partir sur un coup de gueule. Je me tourne vers vous, Lucas Cerdic. D'ailleurs, Timothée Rouvert, vous avez repris votre place à droite. Non, c'est vous, Maxime Brossard.
Oui.
Vous étiez à gauche la semaine dernière. C'était un peu bizarre.
On voit qui prend ma place quand je m'en vais. D'accord.
Exactement. Lucas Cerdic, on va parler du TFC et encore une fois de la très mauvaise performance hier contre Caen 19e.
On les laisse quand même souvent tranquilles, le TFC, mais là ils sont obligés de leur taper dessus un petit peu parce qu'on est sur une 11e match, sans victoire à domicile, et c'est un triste record pour ce club. Voilà, record
du club.
Cette fois-ci c'était face à Caen et on a frôlé en plus la défaite, hein, sans le capitaine Max-Alain Gradel, éternel sauveur de cette équipe, et un coup franc magnifique. D'ailleurs, la seule chose qu'il a réussi
dans ce match, il le dit après. Ouais.
Sans ce coup franc-là, on aurait en plus une défaite qui fait tâche, franchement, face à Caen, 19e, qui était vraiment pas en forme et qui n'avait plus gagné depuis, comme par hasard, le match aller face au TFC. Donc, on a une équipe qui est. On nous promettait du neuf avec du vieux, avec le retour de Casanova. On n'a pas de neuf, ça marche toujours aussi mollement. Et s'il n'y avait pas ces petits exploits à l'extérieur. Franchement, en plus, à chaque fois, pas vraiment mérité. On serait certainement dans les trois dernières places.
Ah oui, clairement.
Donc, on se battrait pour le maintien encore plus. Et le plus triste, j'ai envie de dire, et Jean, vous allez pouvoir le confirmer, c'est qu'on a l'impression qu'ils se voilent toujours la face.
Oui, j'étais en conférence de presse pour Radio Présence. J'étais au match, tout simplement, pour Radio Présence hier. Et c'est vrai qu'en conférence de presse, on se regardait tous, les journalistes, pour se dire, est-ce que c'est réel ce que vient de dire Alain Casanova en conférence de presse. Son équipe vient à égaliser à la 91e sur un coup de pied arrêté venu, c'est cadeau, c'est venu du ciel. Ils doivent perdre à la mi-temps 2-0 parce qu'il y a un but refusé pour Caen. Je pense que si on le refuse à Toulouse, là par contre ça fait la une des journaux ici parce que c'est clairement un scandale. Et du côté toulousain, on a été discret là-dessus, donc ça prouve bien l'erreur d'arbitrage de la part de Le Texier qui était l'arbitre hier. Et en conférence de presse, il essaye de nous faire comprendre que Toulouse doit gagner 2-0 à la mi-temps alors qu'il doit être à 0-2. Ok, Alain Casanova doit protéger ses joueurs, c'est son rôle, et il ne faut pas toujours taper, surtout dans les médias, mais il y a un moment donné, il faut être, je pense, honnête avec soi-même, et c'est presque du déni, en fait. C'est presque du déni d'être aussi à côté de la plaque en conférence de presse dans un match mauvais et qui vient...
Le déni, c'est une grande spécialité de ce club depuis plusieurs saisons, et ça fait trop longtemps que ça dure, je pense. Hein.
Timothée Rouvière, c'est vrai qu'on se fait, désolé du terme, on se fait chier au stadium. Hein.
Bah oui, moi je partage ce que vous dites, messieurs, c'est vrai que c'est... Le mot est peut-être fort, mais affligeant.
Ouais.
Ça fait 10-15 ans qu'on est toujours dans ces débats avec le TFC, où le TFC perd, où le TFC propose un jeu qui est affligeant, où on a certains joueurs qui sont jamais au niveau, où il n'y a pas de réaction de la part du staff, du président, et surtout, les supporters ne viennent plus au stade, et c'est ça qui est peut-être le plus inquiétant. On ne sait pas ce qu'il faut faire. Moi, je suis presque triste pour Max-Alain Gradel, qui est un super joueur, qui, oui, il est vrai, il s'est perdu,
il s'est perdu
en Première Ligue, mais voilà, il est dans une équipe qui n'est pas taillée pour lui.
Il est venu parce qu'il voulait être patron d'une équipe, et c'est ce qu'il arrive à être au TFC, mais bon, du coup, il est un petit peu trop seul, et il n'ira pas bien loin avec son équipe.
Voilà, c'est ça le problème.
Bizarrement, il y avait du monde quand même même pour un TFC Caen,
il y avait beaucoup de monde
à 15h, il y avait du monde, mais bon, s'il avait pas fait aussi beau, ça aurait pas été le cas. Enfin, on venait pas pour le spectacle, quoi, on le sait très bien.
Exactement. Mais est-ce qu'il y a un clair pour finir sur le TFC avant de partir sur le coup de cœur de Timothée Rouvière? Pour finir sur le TFC, il y a un manque d'ambition depuis des années, et à force de jouer avec
ça,
le
oui.
feu, ça va descendre.
Ça,
ou
oui,
pas
mais, et le pire, c'est que ça a été reconnu. La place du TFC pour Olivier Sadran est entre la 8e et la 10e place. C'est ce qu'il aime bien, faire sortir des joueurs du centre de formation, les vendre à un bon prix et se maintenir à ce niveau-là, histoire de pouvoir faire continuer de tourner la machine. Mais effectivement, pour lui, le TFC n'a rien à faire plus haut. Et c'est assez clair.
C'est-à-dire pour la quatrième ville de France, c'est quand même gros, non ?
C'est gros, mais bon, après, s'il n'a pas les ronds, il n'a pas les ronds, c'est pas grave. Mais oui. L'honnêteté devrait le pousser au moins à aller chercher
un partenaire
ailleurs, un partenaire ou quelque chose. Parce qu'effectivement, on ne peut pas omettre le fait que ceux qui payent pour des abonnements en veulent plus, et c'est une question de respect au bout d'un moment.
Timothée Rouvière.
La question, c'est est-ce qu'il ne faut pas que le TFC descende une bonne fois pour toutes en Ligue 2 pour secouer le coquetier de tout le monde ? Je pense que c'est leur place. Hein. Je pense que c'est leur place. Et encore, il y a certains clubs de Ligue 2 qui proposent un jeu un peu plus alléchant que le TFC actuellement.
Gardez la parole, Timothée Rouvière. On va prendre un coup de cœur, après un coup de larmes, de tristesse, après un coup de gueule. On va partir sur un coup de cœur. On va faire
un peu de soleil.
On va faire du coup de pédale.
On va faire du vélo, là. Oui, on va faire du vélo. Un coup de cœur sur Thibaut Pinot.
Un peu de positif, oui, sur Thibaut Pinot qui a gagné le Tour du Haut Var ce week-end. C'est vrai que son équipe Groupama FDJ avait travaillé toute la semaine sans vraiment être récompensé. Et tout simplement, il s'est imposé dans l'étape Rennes lors de la dernière étape devant Romain Bardet. C'est une belle performance pour Thibaut Pinot, qui a connu une grosse préparation, surtout en Espagne avec ses coéquipiers, qui avait peur d'être un petit peu juste et un petit peu cuit physiquement. Mais c'est plutôt bien, et le voir aussi tôt près dans la saison, c'est positif. On a un beau tir groupé des Français, Pinot qui s'impose devant Bardet qui est à 3 secondes, Alexis Villermoz d'AG2R La Mondiale est à 11 secondes et Nicolas Hédé est à 13 secondes. Voilà, clairement l'objectif de Thibaut Pinot, c'est le Tour de France en 2019. Il a annoncé, il a crié haut et fort. Son directeur sportif Marc Madio a annoncé aussi un nouveau Pinot, voilà, de quoi laisser entrevoir de beaux résultats pour le mois de juillet. Voilà, on en parle régulièrement dans cette émission, le cyclisme français se porte bien. C'est aussi positif aussi de voir Romain Bardet terminer deuxième à 3 secondes. Il a manqué un petit peu de gaz et d'accélération dans la dernière montée face à Pinot, mais voilà, c'est un dernier cadeau à reprendre, et il venait se tester, et c'est plutôt positif pour Bardet, mais aussi pour Pinot.
On va parler du cyclisme le 11 mars, le lundi 11 mars, on va recevoir dans notre émission le président de la Fédération Française de Cyclisme, Michel Caillot. On va parler avec lui forcément du Tour de France, des Français. Comme vient de nous dire Timothée Rouvière, Thibaut Pinot a un objectif, le Tour de France, c'est faisable pour lui. On voit qu'il commence la saison comme il le faut, quoi.
Le Tour de France, il le gagnera pas tant qu'il ne sera pas bon et régulier sur tous les terrains, et ça implique des étapes de plaine qui le mettent des fois en difficulté parce qu'il n'a pas une science tactique excellente dans ce genre de profil d'étape. Ça impliquera aussi qu'il soit le meilleur de France au moins sur le chrono, ce qu'il a était un peu à la surprise générale il y a 2-3 saisons, je me souviens plus, 2016 je crois. Voilà, parce qu'on ne gagne pas le Tour aujourd'hui si on n'est pas bon au chrono, ça s'est vérifié toutes les dernières saisons quasiment.
Évidence,
mais ça n'empêche qu'il affiche une bonne forme, effectivement tôt dans la saison c'est assez rare. Bardet, même si il a voulu, même il n'avait pas de grandes jambes, il fait deuxième, donc c'est plutôt pas mal. Ses vrais objectifs à Bardet pour l'instant, en tout cas en ce début de saison, se situent au mois de mars. S'il réussit son mois de mars, on aura oublié le Tour du Haut Var rapidement.
Comme il a dit, il veut le Tour de France. Le fait d'être prêt physiquement, c'est pour tactiquement, entre guillemets, d'avoir un creux au mois d'avril, mois de mai, pour revenir directement en forme. Il y aura le contre-coup de la préparation physique courant mai-juin pour être prêt tout de suite pour le Tour de France. C'est calculé, c'est voulu ?
Oui, c'est calculé. On sait qu'il va allonger un petit peu son programme par rapport aux autres années. Moi, je considère qu'il est outsider pour ce Tour de France. Comme le disait Lucas,
un
outsider, au même titre que peut l'être Bardet, que peut l'être Van Garderen quand il est bien. Moi je pense que Thibaut a ses chances. Après il va devoir avoir une équipe FDJ très forte autour de lui. Il va falloir qu'il soit vraiment bon sur le chrono. Mais la FDJ a recruté le rouleur suisse de la BMC, Stephen Kungs, qui a été champion du monde du chrono il y a peu.
Oui, ça peut faire
donc
du bien.
Ça va faire du bien à cette équipe, et en tout cas il n'a jamais été aussi proche de remporter ou de bien figurer sur le Tour de France.
Lucas Cerdic,
les deux équipes françaises sont très bien armées aujourd'hui pour jouer sur un tour de 3 semaines. Il faut qu'ils s'améliorent sur les chronos, c'est tout ce qui leur manque. Et là, il y aura vraiment de bonnes chances, oui.
Et on salue, merci messieurs, on salue nous Anne-Sophie Barthé qu'on avait reçue il y a quelques semaines dans notre émission dans Sportez-vous bien, qui a fait sa dernière course en Suisse ce week-end, qui a pris sa retraite après, donc on la salue.
Elle va nous manquer.
Bravo. Elle va nous manquer. On se retrouve nous dans moins de 4 minutes avec la chronique santé, à tout de suite.
Causando impresión, cada día cuando levanta, brilla como el sol. Su vestido de seda calienta mi corazón, como en una novela en la televisión. Necesita tu ayuda, no lo tengo en las venas y no la puedo controlar. Creo que mi cintura choca con mi cultura, tropiezo con la arena, ya no me puedo controlar. Y bajando, bajando, olvidando, olvidando, que estoy bailando, bailando, y así hasta el amanecer. Porque mi cintura necesita tu ayuda. Que no bajamos a la playa para así practicar pronto por la mañana y así no hay nadie más. Cuando bailo contigo tu cuerpo me da calor, besito a besito, mi fruta de la pasión. Necesita tu ayuda, no lo tengo en las venas y no la puedo controlar. Y bajando, bajando. Como las olas del mar, ven hacia mí, que ya no puedo parar. Ven hacia mí, como las olas del mar, ven hacia mí, ya no puedo parar. Y bajando, bajando, olvidando, olvidando, que estoy bailando, bailando, y así hasta el amanecer. Porque mi cintura necesita tu ayuda.
C'était Alvaro Soler sur Radio Présence.
Sportez-vous bien, l'instant santé.
La chronique santé avec vous, Didier Rubio. La semaine dernière, nous avions parlé des épices et des aromates. Là, est-ce qu'il y a un lien, peut-être, vous allez nous le dire, avec le cholestérol? Tout simplement, qu'est-ce que c'est?
Bonsoir Jean. Oui, c'est vrai qu'on avait traité le sel et les épices, les aromates. Donc c'est une façon d'agrémenter la cuisine et tout ce que l'on mange. Donc le cholestérol, ça va être difficile de régler l'affaire en 4 minutes. Parce que c'est un gros débat.
C'est un gros sujet, oui.
C'est un gros sujet qui date déjà depuis de nombreuses années. Est-ce que le cholestérol, c'est bon ou pas? Donc c'est une molécule qui est contenue dans les aliments, entre autres, mais que l'organisme fabrique également, et certainement plus que celle que l'on peut apporter par les aliments. Donc le cholestérol, il va au niveau du foie se transformer et ensuite être transporté par les vaisseaux. Donc c'est pour ça qu'on parle du cholestérol dans les artères.
Dans les artères. C'est un peu, c'est de la graisse un peu, c'est
voilà,
ça.
Voilà, ouais, ça serait une graisse qui circulerait dans le sang et qui aurait tendance à se déposer sur les artères ou ne pas se déposer. Donc du coup, le périphérique il est bouché.
Quand il est bouché, il faut le
boucher.
Voilà, exactement. Ouais.
Alors moi,
il y a des dangers alors finalement.
Alors il y a des dangers, mais ce qu'il faut, c'est bien différencier deux types de cholestérol. Hein. Un que l'on appelle le bon et l'autre que l'on appelle le mauvais. Donc à retenir, c'est que le mauvais cholestérol, c'est le LDL cholestérol, hein, ça s'appelle LDL. Et ensuite, celui que l'on appelle le bon cholestérol, c'est du HDL cholestérol. Donc c'est une histoire de densité. HDL veut dire height density. Donc on est dans des
c'est le pourcentage.
Des densités, voilà, c'est des densités élevées. Donc c'est au niveau du transport. Et donc ce cholestérol, il serait protecteur. C'est-à-dire que au contraire du mauvais, il va quand même avoir tendance à protéger. Alors comment faire pour avoir du bon cholestérol finalement?
Comment on le différencie, voilà, dans nos achats de tous les jours?
Voilà. Alors ça se passe pas au niveau de ce que l'on mange. Hein, c'est surtout au niveau après du transport et de la transformation par le foie. Dans ce que l'on mange, on a tout simplement du cholestérol. Il faut bien comprendre que ce sont les facteurs de risque associés qui vont être difficiles. C'est-à-dire que si vous prenez quelqu'un qui a un peu de cholestérol, mais qui ne fume pas, qui n'a pas une consommation d'alcool excessive, qui est actif et peu stressé, et qui n'a pas d'antécédents familiaux de maladies cardiovasculaires, le cholestérol, ce n'est pas un problème. Ouais. Maintenant, vous avez quelqu'un qui est sédentaire, qui fume, qui a des antécédents familiaux de maladies cardiovasculaires et qui a du cholestérol, c'est comme ça qu'il faut traiter l'affaire. Donc le cholestérol isolé n'a pas de valeur, donc moi j'encourage vraiment à garder son calme avec ça, et surtout tout ce qu'on a dit dans les autres rubriques, Jean, participe vraiment à limiter le risque, c'est-à-dire, quand on mange des fruits et des légumes, on va avoir des antioxydants, donc on va éviter que le cholestérol qui est dans les artères devienne mauvais. Ça, c'est la première chose. On va protéger son organisme. Également, quand on a une alimentation riche en fibres, ça, on en parlera une prochaine fois, on va limiter l'absorption du cholestérol. Voilà, donc l'idée, le cholestérol, avant même de prendre un traitement médical, je pense qu'il faut regarder plutôt le style de vie, de manière à avoir un style de vie, même s'il y a un peu de cholestérol, qui ne soit pas très gênant. Et si c'est du bon, du HDL cholestérol, ben encore mieux, donc on est encore plus protégé.
Donc le cholestérol à petite dose.
Exactement, cholestérol à petite dose et si possible du bon en faisant de l'activité physique et en mangeant correctement comme on l'a dit au cours de ces rubriques.
C'est parfait, Didier Rubio, merci.
Avec plaisir.
On le rappelle, vous êtes diététicien et nutritionniste du sport, spécialisé en éducation thérapeutique. Vous travaillez également à mi-temps, hôpital des enfants et aussi en activité libérale dans le sport et la santé. Vous avez été formé en qualité de vie au travail et dans le sport. En plus, vous êtes conférencier et micronutritionniste. Vos coordonnées sont à retrouver sur Radio Présence.
Sportez-vous bien ? L'agenda sportif.
L'agenda de la semaine avec vous, Lucas Serdic, qui est sur mon téléphone, parce qu'on n'est pas d'accord. On vous dira pourquoi tout à l'heure. On en parlera avec le Stade Toulousain, tiens, on va l'inclure là-dedans. On n'est pas d'accord sur un point sur le rugby.
Pas d'accord.
L'agenda de la semaine, justement, le rugby, on va commencer avec ça et le Stade Toulousain.
Évidemment, le top 14, on a une grosse affiche qui nous attend ce week-end. C'est presque un derby, hein, on peut dire. Alors, en tout cas, c'est un classique.
Malheureux, mélange pas le nord et le sud. Hein.
Mais non, un derby dans le sens. Voilà, c'est un classique. Un classique.
Un classique, ouais.
Stade français, Stade Toulousain. Ce sera dimanche à 16h50, le 6e contre le 1er.
Messieurs, le pain au chocolat contre la chocolatine.
Messieurs, est-ce qu'on fait directement le pari chocolat, là tout de suite maintenant? On fait le pari.
Je vais pas faire la même erreur que le match aller.
Oui.
Je sais pas si les auditeurs se rappellent où j'avais dit victoire avec le bonus du Stade français parce que c'était le pain au chocolat, faut le rappeler.
Quelle honte.
Alors, je pense toujours que le pain au chocolat c'est mieux.
Non,
je le dirai toujours. Mais je vais dire victoire du Stade français, pourquoi? Parce que vu que je me trompe tout le temps,
ouais.
Le Stade Toulousain va s'imposer. Donc victoire du Stade français par 3 points.
C'est grave ce que tu es en train de faire, Jean. Parce que tu dis je préfère le pain au chocolat, tu donnes le vainqueur le Stade français et tu dis c'est parce que j'ai envie que le Stade Toulousain gagne. Personne te croit.
Ouais, c'est un peu
mais
bizarre.
Si,
là,
mais si, mais si. Non, mais
c'est fini.
Comme ça,
3 points d'écart, ça me va pas, il me faut un score.
18-15.
Ok.
Ah. Déjà, j'arrive à faire 3 points d'écart, c'est pas mal. Timothée Rouvière.
Moi, je partirais sur une victoire toulousaine. Depuis le début de la saison, ils prouvent qu'ils sont là-haut, ils sont premiers du top 14. Oui, le Stade français a remporté une belle victoire contre La Rochelle. Oui, il y a la présence de Yann Maestri et
c'est trop long, on en parlera tout à l'heure du stade.
Ok, donc victoire du Stade français, non, n'importe quoi, du Stade toulousain, 22-11.
22-11.
Non, je suis pas.
Maxime Brossard.
J'avais pris un peu mon truc. Moi, je dirais, déjà, pour le pain au chocolat, ça n'existe pas, ça. C'est pour moi, c'est une baguette avec du Lindt, quoi, un pain au chocolat, c'est. Ça, c'est. Enfin, bon, c'est, on en fera un débat si vous voulez. 21-14 pour le stade.
21-14 pour le stade.
Ouais, mais le stade, il n'y en a qu'un. Hein, donc,
Ok.
Et Coraline, notre réalisatrice, qui avait eu bon hein, le dernier pari, c'était sur.
J'avais même été gentille, en fait. Pour le, c'était pour l'équipe de France.
C'était l'équipe de France. Vous aviez dit 50-10 pour l'Angleterre et il y avait eu. Vous étiez pas loin.
Je crois que j'étais pas
donc, là,
44-8, hein.
44-8,
ouais. Donc vous étiez pas loin. Donc ce stade français.
Mais je pense que le stade va exploser.
Lequel? Parce qu'il y en a deux.
Notre stade à nous.
Eh oui.
Va exploser le stade français. Allez, je mise sur un 40-13.
Ah oui, quand
putain,
même.
C'est okay. Ça.
Oui.
Moi, malheureusement, spot, malheureusement, je vois une défaite du stade toulousain sans ses internationaux. Ça va pas marcher.
Voilà.
Stade français, je dirais 25-18.
Ah, 25-18, ah, quand même.
25-18 pour le stade français. Malheureusement.
Donc on verra ça lundi, et sinon ça joue sur les autres pelouses, bien évidemment.
Ça joue, oui, effectivement. Alors du coup, il faut que je revienne. La veille, il y a deux matchs qui vont nous intéresser aussi. C'est pour la 18e journée, hein. on l'a pas précisé. Le stade de Toulousain qui est leader. Donc, et samedi à 18h, il y aura Pau à Jeun, le 11e contre le 12e. On parle de Pau 30 secondes pour dire que ça ne va pas du tout.
Coraline.
Parce que une
on
défaite
ne parle pas de Pau.
Une défaite 38-11 à Toulon qui était au fond du seau, c'est. Bon,
tout va
voilà,
bien.
Voilà. L'autre match aussi qui sera très intéressant à suivre, ce sera Lyon contre Castres qui a fait un très beau match à Perpignan et qui s'est imposé 20-13, qui est 7e, Lyon est 3e, mais il n'y a que 6 points d'écart entre les deux équipes et c'est un match très très important de l'optique d'une qualification pour le top 6. Castres, champion de France en titre, serait-il utile de le rappeler?
On parle sur le football?
Oh, un petit peu de Pro D2.
Pro D2,
un tout petit peu de Pro D2 quand même, je sais que voilà, mais bon,
on fait de la Pro D2, quoi. C'est parti.
23e journée ce week-end, jeudi à 20h45, Montauban accueillera Oyonnax, gros match en prévision pour les Montalbanais, ils sont 13e alors qu'Oyonnax est 3e. Montauban a perdu à Mont-de-Marsan ce week-end 16-10. On va parler quand même de ce match vendredi à 20h qui nous intéresse fortement. Nevers-Colomiers, parce que Colomiers est sorti de la zone rouge,
oui.
Et ça leur était pas arrivé depuis un moment. Ils sont 14e à la faveur d'une belle victoire contre un concurrent direct, Bourg-en-Bresse,
ouais.
Qui eux sont passés 15e. 29-19
match pas perdu,
à domicile.
Voilà. Pas perdu.
Ouais, c'était vraiment très 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 important de gagner. Là à Nevers 3e, ça va être beaucoup plus compliqué, mais bon, on verra. Et dans le même temps, vendredi toujours à 20h, Carcassonne accueillera Biarritz, le 11e contre le 10e. Carcassonne qui a perdu à Oyonnax 38-10 ce week-end.
Maxime Brossard.
Et samedi, il y a un beau derby, Castanet-Blagnac à 18h30.
En fédéral une.
Ouais, ouais, si vous voulez voir du rugby, quoi.
Non, c'est important de le dire, c'est vrai. Ouais. Est-ce qu'on passe au football maintenant?
On peut parler, on passe au
oui,
football. Oui, allez,
on a parlé du TFC, donc là on va le faire très rapidement. Lyon-TFC, c'est un match qui se jouera dimanche à 17h. C'est pas l'idéal pour se rattraper pour le TFC, mais en même temps, ils ont gagné à Lille. On se dit que finalement c'est possible.
C'est
Lyon perd.
Et Lyon, quand c'est pas le Barça, ils n'y arrivent pas.
Voilà, ce sera la 27e journée de Ligue 1, donc dimanche à 17h. On va écouter
Max-Alain Gradel.
Pour l'occasion, Max-Alain Gradel, le capitaine du TFC, juste après le match face à Caen. Un partout.
Malheureusement, l'histoire se répète. On est très très déçus. On sait que les supporters sont déçus, mais une chose est sûre, on est encore 10 fois plus déçus qu'eux. Parce que voilà, on a vraiment, vraiment, vraiment mis ce qu'il fallait. Dommage, ça n'a pas payé. Mais bon, je pense qu'il faut continuer. Et voilà, à un moment donné, ça va tourner. Les derniers matchs ici au Stadium, les entames n'ont pas été du tout bonnes. Là, on a montré un nouveau visage. On a vraiment poussé lors de la première période. On méritait de marquer au moins deux ou trois buts, si je n'exagère pas. Après, c'est vrai que voilà, en ce moment, la chance n'est pas de notre côté. Mais il faut continuer. Et il y a beaucoup de positifs. Mais les choses ne vont pas changer automatiquement comme ça. C'est petit à petit. Et voilà, donc on va essayer d'avancer comme ça.
Voilà, Max-Alain Gradel, le capitaine du TFC, qui a encore sauvé son équipe ce week-end. On part sur du...
On refait du rugby. On va parler du rugby à 13.
C'est pas le même rugby, attention, hein, notre invité pourra nous le dire mieux que nous.
On va en parler tout
mais
à l'heure.
Voilà, rugby à 13, pour dire que le Théo s'est imposé le week-end dernier à Swinton, 26-24. Ça fait du bien parce que c'est la première victoire à l'extérieur. C'était pour le compte de la 4e journée. Et là, il y a la 5e journée qui se présente. Dimanche à 16h, le Toulouse Olympique se déplacera à Bradford, qui est 8e, alors que le Théo est 5e. Donc voilà, c'est un match peut-être à la portée.
Avant de recevoir Toronto.
Avant la grosse affiche, voilà, effectivement, la réception de Toronto dans 2 semaines. Un mot de hand pour dire que Toulouse va accueillir Cesson-Rennes mercredi, donc après-demain à 20h30. C'est le 10e contre le 11e dans le cadre de la 16e journée de Lidl Star League. Voilà, les Toulousains qui sont inclinés un petit peu lourdement, mais c'était prévisible face
c'était
à Paris
logique.
À domicile. Voilà, 35-30 le week-end dernier. On va écouter tout de suite le coach des Phoenix, Philippe Gardan.
Si jamais on arrivait à s'imposer contre Cesson, on prendrait vraiment de la distance vers le bas. Même si là on a déjà un avantage assez conséquent, mais mathématiquement loin de là, c'est pas encore résolu. Donc voilà, le fait de si jamais on gagne contre Cesson, on va pouvoir peut-être lever la tête et regarder un petit peu plus vers le haut. Mais pour l'instant c'est pas fait. Et ce match-là pour nous est d'une importance capitale.
Voilà, si vous voulez soutenir un petit peu les Phoenix, ce sera donc mercredi à 20h30. Quelques secondes pour parler de volley. C'est la 21e journée qui se jouera ce week-end. Toulouse se déplace à Chaumont samedi à 20h.
Et on parlera des Spacers le lundi prochain, puisqu'on va recevoir un joueur du volley de Toulouse.
Voilà, les Spacers qui n'ont pas joué le week-end dernier, hein, puisque c'est un championnat à 13. Voilà, ils étaient exempts, comme c'est le cas de temps en temps. Et voilà, quelques secondes aussi pour parler du hockey, parce que le TBHC va très bien. Ils se sont imposés sur la glace de Chalon, hein, c'est ça,
Chalon, les Gaulois de Chalon, j'en
voilà, 7-3 en 8e de finale aller, donc ils sont très bien placés pour le retour qui se jouera samedi à 19h30 aller à Blagnac pour soutenir le TBHC les Belugas.
Merci Lucas, on passe tout de suite nous au débat de la soirée.
Sportez-vous bien, le débat.
Toujours leader du top 14 et en quart de finale de la Coupe d'Europe, le Stade Toulousain semble redevenir grand. À l'heure où les internationaux sont absents, les jeunes continuent la belle série, ce qui laisse présager de belles choses pour la suite. Messieurs, vous avez l'habitude, on ne répond uniquement que par oui ou par non. Et ensuite, on débat, est-ce que le Stade Toulousain peut faire le doublé top 14, Champions Cup, Timothée Rouvière?
Oui, moi j'y crois.
Maxime Brossard?
Non.
Et Lucas Cerdic?
J'ai envie de me laisser bercer par la folie du moment. Je dis oui.
Alors, la folie du moment, c'est vrai que les Toulousains, le Stade Toulousain est en forme.
Mais oui.
Il nous laisse rêver quand même.
Mais bien sûr, le Stade Toulousain, ça fonctionne. Magnifique. Quatrième victoire d'affilée en 2019. Ils sont premiers du top 14. Alors que les internationaux ne sont pas là et qui brillent d'ailleurs en sélection. Antoine Dupont, Romain Tamac, Yohann Huger, pour ne parler que deux. Déjà lors de la phase aller, quand il y avait eu des doublons, ils avaient été plutôt impressionnants. Là je pense qu'ils sont vraiment bien partis cette saison. Cette équipe me plaît. Voilà, je dis pas qu'ils gagneront tous leurs matchs. Voilà, j'ai pronostiqué une défaite face au Stade Français. Je dis pas que ce sera facile, évidemment, mais c'est possible à la faveur d'une victoire par exemple en quart de finale sur la pelouse du Racing, et puis peut-être d'un peu de chance pour la suite. Franchement, c'est jouable, surtout qu'on sait que maintenant, les playoffs, c'est quand même un truc un peu particulier, quoi. Voilà.
Je me tourne vers vous, Maxime Brossard. Vous avez dit non, c'est pas possible. Quitte à choisir le Brennus,
le bouclier
de loin.
Ouais, le bouclier de Brennus. Je pense que c'est le plus symbolique. Quand on joue au rugby, comme je l'avais dit, quand on en avait parlé en début de saison. Quand on est un gamin, on rêve plus du bouclier de Brennus que de la Coupe d'Europe. Enfin, pour ma part, peut-être que les nouvelles générations, ça a changé. Hein, parce que la Coupe d'Europe, c'est vrai qu'elle a bien grandi dans le cœur des Français. Mais bon, après, oui, j'ai dit non parce que y a que la statistique.
Avec
la statistique surtout, là, qui est que finalement, les équipes qui ont réussi le doublé, c'est 96 et 2014. 2014, le RC Toulon, c'était l'armada toulonnaise, donc ils avaient peut-être...
Et en 96, c'était déjà Toulouse.
Puis il y avait une grosse expérience.
Ils avaient 4 équipes.
À ce moment-là, ils étaient quand même double champion d'Europe.
Surtout le banc, quoi. Ils avaient 4 équipes. Ils se sont permis de ne pas faire jouer Michalak en finale et tout. Enfin, c'était hallucinant, quoi. Et en 96, bon, là, c'était parce que finalement, c'était pas la Coupe d'Europe sous le format actuel. C'était un peu une Coupe Gigot-Haricot. C'était le début. Bon.
C'est vrai.
Mais voilà, quoi.
Ah, mais je dis pas qu'ils vont le faire, mais franchement, techniquement, vu ce qu'ils montrent depuis le début de la saison, je trouve qu'ils peuvent le faire. Voilà. À part la défaite au Leinster, il n'y a pas eu de le gros couac à Montpellier aussi, mais là ils avaient c'était prévisible. Moi je trouve qu'ils ont, il y a pas un seul match où ils ont déçu.
Timothée Rouvière, quand on voit le début de saison, enfin même pas la saison, on va dire du Stade Toulousain, on peut être que content. Vous êtes d'accord pour dire qu'ils peuvent faire le doublé?
Moi je suis d'accord parce que par rapport à ce qu'ils montrent, comme disait Lucas, par rapport à ce qu'ils montrent depuis le début de la saison, c'est vrai que les cadres sont au rendez-vous. Même à l'absence des cadres, on a des jeunes qui percent. On voit Tauzin, on voit Sébastien Bézier qui revient bien après une année 2018 compliquée. Moi je sens une certaine légèreté et une certaine ambiance, une très bonne ambiance au sein de ce Stade Toulousain.
Oui, de l'insouciance aussi.
Voilà, l'insouciance est
caractérisée par cette génération qui a été championne du monde.
Voilà, tout à fait. Et ce mélange entre l'expérience, la jeunesse et un staff compétent et qui assure, c'est positif. Après, ça sera compliqué parce que face aux Armadas, du Leinster, du Munster ou des Saracens, pour aller en Coupe d'Europe, ce sera compliqué, mais on verra, on peut se permettre de rêver, moi je pense.
Est-ce que les performances du Stade Toulousain, malgré les internationaux, on va rappeler pour nos auditeurs, ils doivent le savoir, il y a le tournoi destination à l'heure actuelle, mais le championnat ne s'arrête pas pour autant. Donc c'est des week-ends de doublons, donc les équipes doivent faire sans leurs internationaux, qui sont avec l'Irlande, l'Angleterre, la France, etc.
Ou en préparation, tout simplement.
Ou en préparation. Voir le Stade Toulousain continuer à gagner malgré ses 7-8 internationaux en moins, ça laisse présager vraiment une belle suite et une belle fin de saison.
Oui, c'est vrai que c'est quelque chose de nouveau parce que les saisons précédentes en période de doublon, le Stade Toulousain n'était pas forcément performant. Moi, je m'attendais clairement à ce qu'ils perdent contre Montpellier parce que Montpellier n'a pas énormément d'internationaux. Ils ont quand même tout leur Sud-Africain.
Comme le Racing, ils sont allés gagner au Racing.
Voilà, qui était présent et Toulouse qui se révèle en cette période de doublon.
Ouais, ça fut compliqué, mais ils ont gagné. Ouais.
Voilà, ce fut compliqué, voilà, au niveau mental aussi, le Stade, ils sont costauds cette année.
Ouais, ils ont corrigé les fins de match où c'était compliqué.
Exactement.
Le match où finalement ils sont relâchés à la fin.
L'année dernière, c'était leur gros point noir. C'est effectivement, ils faisaient des bons matchs, mais
ils explosaient. Ça continue un peu au début d'année, là, et après, ça s'est tassé tout ça. Et puis là, on a vu que ça s'est un peu inversé finalement.
C'est la confiance.
Début de match, ils ont ramassé parce qu'ils ont joué contre l'expression qui est chère à Jean, les mammouths montpelliérains, là, ils ont mis beaucoup d'intensité.
J'adore cette expression.
Beaucoup de puissance. Et du coup, ils ont été pris dans le défi physique. C'est normal, parce que c'est quand même une équipe qui est un peu plus légère, l'équipe du Stade.
Ah oui.
Même s'ils avaient mis Técori, qui est aussi un beau tracteur. Hein. Mais après, ils ont quand même bien rivalisé. Et puis derrière, après, quand les autres étaient capot ouvert, après, ça a joué. Quoi. Là, c'était la folie. Quoi.
Ouais. Timothée Ruyer.
Moi, je trouve cette équipe de Toulouse relativement impressionnante quand même depuis le début de la saison, surtout en top 14. C'est vrai qu'il n'y a pas de club qui se détache, bon, à part Clermont qui est costaud, mais là qui a perdu à Lyon. Les autres équipes, c'est des performances en dents de scie, c'est des calendriers pas forcément faciles. On voit des clubs historiques comme Montpellier qui est vice-champion de France, comme Toulon qui a eu une période faste durant les années 2013, 2014, même le Racing qui a fait une finale de Coupe d'Europe l'année dernière qui est même pas dans le top 6, donc
c'est vrai que là se dessine un top 6 quand même de club, effectivement, avec un peu moins d'expérience, que même si le Stade Français c'est un club historique, c'est une équipe qui est complètement en reconstruction. Bordeaux-Bègles qui arrive jamais à se qualifier pour les phases finales, La Rochelle qui ont quand même un déficit d'expérience aussi dans ce domaine,
Lyon,
si Castres, le Racing arrive à accrocher, bon, ce sera peut-être quelque chose de plus, mais bon, le Racing pour moi clairement il joue la Coupe d'Europe cette saison. Castres, il faut toujours se méfier. Enfin voilà, à part Clermont, effectivement, ne pointe pas de gros adversaires, en tout cas pour le Brennus, pour les Toulousains. Ouais. Bon voilà, ce serait vraiment un exploit retentissant de faire un doublé, mais...
C'est possible. Maxime Brossard, ça va se jouer sur quoi justement alors cette fin de saison où il y a deux tableaux à jouer.
Je sais pas trop, moi j'ai même peut-être un peu peur que finalement s'il joue un peu tout, il perd tout quoi. Donc est-ce qu'il va pas falloir se concentrer sur une des deux compétitions
Mais moi je détesterais ça
à un moment donné. Mais après non, honnêtement, déjà en fait quand les internationaux vont revenir, il va quand même leur falloir un petit peu de temps pour se régénérer, ils vont pas de suite.
Il y a déjà Marchand qui est out, qui s'est blessé avec l'équipe de France.
Marchand, c'est terminé pour un long moment.
C'est fin de saison.
Le pauvre là, il est croisé, je crois. Donc,
c'est le danger, pour le Stade Toulousain d'avoir énormément d'internationaux.
Hein, comme Antoine Dupont, il s'était pété avec l'équipe de France. Voilà, ça c'est le risque. Mais bon, quand on est.
Ouais, mais ils ont du flair. S'il faut chercher un joker, ils ont du flair le Stade quand même pour ça.
Ouais, ils ont une bonne série de. C'est une des forces d'ailleurs. Le recrutement, franchement, c'est la super qualité.
Timothée Rouvier.
Moi, je pense qu'il est un peu tôt de parler de doublé là pour le Stade Toulousain. Il y a quand même 2 ans, ils étaient 11e, 12e, je crois, de top 14.
Oui, il y a 2 ans.
C'est un petit peu tôt.
C'était juste avant la relégation.
Je pense qu'il faut se concentrer sur le championnat de France, ça c'est sûr.
Ah là là, mais Timothée Rouvière retourne sa veste.
Mais non, je ne retrouve pas.
Incroyable.
Non, je ne retourne pas. Non, je suis prudent. Mais c'est Maxime qui m'a convaincu. Moi, je pense que.
Je pense qu'il
est trop tôt pour parler doublé. C'est vrai que la Coupe d'Europe, il y a quand même des grosses armadas, comme on le disait tout à l'heure. Concentrons-nous sur le Brennus. Ajoutons une 20e étoile.
Quand je vois l'enthousiasme de cette équipe, je me dis que déjà il faudrait pas choisir parce que ce serait casser l'élan. Moi, c'est ce qui m'a énervé leur dernier match de Coupe d'Europe là, quand ils ont visé.
À Cannes,
ça m'a rendu fou et pour moi c'est contre nature pour cette équipe qui est pleine d'enthousiasme. Donc il faut jouer tous les coups à fond. Mais si on perd tout, on perd tout.
La demi en Irlande, non
C'est une demi-finale en Irlande. Alors c'est soit le Leinster, soit l'Ulster. Donc
l'Ulster.
Mais bon, parce qu'elle est gagnée
là-bas. Si l'Ulster est là, ça veut dire qu'ils auront sorti le Leinster. Donc bon.
Oui, c'est vrai aussi.
On va savoir quoi prendre. Messieurs, merci. On se retrouve dans moins de 4 minutes avec Paul Marcon, notre invité de la soirée.
dehors. Si le monsieur dort dehors, c'est qu'il aime le bruit des voitures. S'il s'amuse à faire le mort, c'est qu'il joue avec les statues. Et si un jour il a disparu, c'est qu'il est devenu millionnaire. C'est qu'il est sûrement sur une île avec un palmier dans sa bière. Tout va bien, tout va bien. Petit, tout va bien, tout va bien. Tout va bien, petit, tout va bien. Tout va bien, tout va bien. Si la voisine crie très fort, c'est qu'elle a pas bien entendu. Si elle a du bleu sur le corps, c'est qu'elle a joué dans la peinture. Et si un jour elle a disparu, c'est qu'elle est partie en lune de miel. En attendant les jours de pluie, elle met ses lunettes de soleil. Tout va bien, tout va bien. Petit, tout va bien. Tout va bien. Tout va bien. Petit, tout va bien. Tout va bien. Tout va bien. Si les hommes se tirent dessus, c'est qu'il y a des vaccins dans les balles. Et si les bâtiments explosent, c'est pour fabriquer des étoiles. Et si un jour ils ont disparu, c'est qu'ils s'amusaient tellement bien. Ils sont partis loin faire une ronde, tous entrés, main dans la main. Tout va bien, tout va bien. Petit, tout va bien. Tout va bien. Tout va bien. Petit, tout va bien. Tout va bien. Tout va bien.
C'était Orelsan sur Radio Présence.
Sportez-vous bien, l'invité.
Moi, je soupçonne la réalisation de cette émission de ne plus mettre de chansons anglaises
ouais.
pour faciliter le travail de notre cher présentateur.
On a plus l'accent, on a le magnifique accent de,
et moi,
du Sussex de
Jean. Un accent du Sussex, c'est exactement ça.
Coraline, la réalisatrice, je ne vous ai jamais rien dit sur ça, si ?
Non, mais vous inquiétez pas, on a mis quelques artistes qui vont après être sympas pour Jean à prononcer.
Merci, moi je pense que ça, les consignes viennent de plus haut. Voilà,
les prochaines semaines seront marrantes.
Voilà, les dirigeants de cette radio se rendent bien compte que c'est terrible sinon.
On va parler là des clubs anglais avec notre invité qui est un joueur de rugby à 13 de Toulouse dans un championnat, on va dire international. Il est international français, Paul Marcon a déjà une belle carrière malgré son jeune âge. Paul, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes donc joueur de rugby à 13, hormis les deux joueurs en moins par rapport au rugby à 15, jusque-là, tout va bien. Est-ce que ce sont les mêmes règles du rugby ?
Pas du tout. Alors, c'est totalement deux sports différents. Et ce qui change, c'est d'abord, on a cinq chances d'aller marquer.
Un peu comme le football américain, c'est ça.
C'est ça hein. Dès qu'on est plaqué, la défense doit être à 10 mètres. Donc déjà, ça fait pas mal d'aller-retour pour la défense. Et un essai, c'est 4 points. La transformation, c'est 2 points. Un drop, c'est 1 point. Une pénalité, c'est 2 points.
Donc les points sont moins importants, entre guillemets, par rapport au rugby, où l'essai, c'est 4 points pour le à 13 et 5 pour le 15.
C'est ça, ouais, tout à fait.
C'est bien ça. Il y a beaucoup en termes de jeu, il y a quand même pas mal de règles qui changent. Est-ce que tout simplement, un joueur de rugby à 13 peut être transféré d'un club à 13 à un club à 15 ou être convoqué en équipe de France au 15 de France? Le rugby à 7, ça arrive de temps en temps.
Ça, à 15 aussi. Enfin, il y a quelques 13istes qui passent à 15, notamment dans l'hémisphère sud.
C'est Bibi Williams, ça, il me semble.
Oui, c'est ça. Ouais.
Notamment, là, il est avec les Néo-Zélandais.
Ouais, il est international kiwi avec le 13. Et là, maintenant, il est avec les All Blacks. Mm. Et après la Coupe du Monde, il parle peut-être de... revenir à ses premiers amours.
Ouais, Timothée Roubien.
Et vous avez commencé juste avec le 13 ou le 15 et le 7
J'ai fait que du 13.
Un pur 13iste.
Ouais.
Que du 13.
Aujourd'hui, les amateurs de rugby à 13 notamment disent que si on veut voir du vrai rugby, ou en tout cas du jeu, il vaut mieux regarder du rugby à 13 que du rugby à 15 parce que bah il y a un peu moins de voilà un peu moins de jeu cassé dedans, quoi. Ouais. Voilà, c'est plus fluide. C'est vrai ou pas?
On va dire qu'on a plus de temps de jeu. C'est sur une rencontre à haut niveau, on arrive à une heure 70 minutes de temps de jeu effectif, donc c'est beaucoup plus. Enfin, il y en a. Enfin, on joue beaucoup plus. Après, c'est différent. Enfin, c'est vraiment pas le même sport, donc.
On ne peut pas comparer ces deux sports, c'est vraiment totalement différent.
On,
enfin,
y a une on peut les comparer en termes de jeu, mais c'est, donc du coup on joue plus.
Je ferai une petite remarque, c'est que généralement, en fait, c'est peut-être un peu fort, je vais peut-être un peu fort, mais des fois l'avenir du rugby à 15 dépend pas mal de ce qui se fait en rugby à 13. Quoi. Comme quand on voit qu'il y a des certaines modes qui sont beaucoup empruntées au rugby à 13, au rugby à 15 et qui viennent du 13, en fait. Je pense notamment au offload qu'on a vu, c'était la grande mode en 2015. Pareil sur les jeux au pied un peu profond aussi. Donc même au niveau de la préparation physique, tout ça, c'est vraiment quelque chose qui vient que les 15istes ont un peu piqué au 13, quoi, je crois.
Oui, peut-être parce que le rugby à 13 est laissé un peu plus tranquille. C'est vrai qu'il y a moins de pression, peut-être.
Médiatiquement, déjà, non ?
En France, oui. Après, en Australie, c'est quand même le sport numéro 1. Donc, il y a beaucoup, tout le monde suit le 13 en Australie. En Angleterre aussi, c'est surtout dans le Nord. Donc il y a quand même un engouement, mais c'est vrai qu'en France, on est plus à 15 qu'à 13.
C'est un rêve pour un joueur français comme toi de 13 d'aller jouer en Australie, par exemple ?
Ça pourrait être un rêve, ouais. Après, c'est très dur parce que du coup, il y a beaucoup de monde qui joue à 13 et le niveau en première division, il est monstrueux. On peut voir même des joueurs comme Semir Adradra qui joue à l'UBB, qui en ce moment tourne comme un avion et... C'est très très dur de percer en Australie, mais oui, je connais quelques personnes, oui, pourquoi pas, ouais.
Vous êtes dans un championnat en Angleterre, alors que vous êtes un club français, il faut expliquer ça aux auditeurs. Comment ça se passe? Il y a même Toronto qui est un club canadien,
c'est bien ça.
Donc vous êtes dans le championnat, vous êtes intégré dans le championnat en anglais, il y a moins d'équipes françaises pour faire un championnat ou ça existe un championnat
Il y a un championnat français.
La réserve du Théo y est d'ailleurs.
C'est ça, ouais. En élite 1, c'est semi-professionnel et le Toulouse Olympique veut aller dans un championnat professionnel. Donc...
Plus UP aussi en termes de niveau, je pense. Hein.
C'est ça, ouais. Du coup, on a commencé en 3e division il y a 3 ans et maintenant on est en 2e division. Ça fait 2 ans qu'on y est, c'est notre 3e année. Et on espère bien sûr aller en première division, mais. C'est compliqué, on veut tous aller en première division, donc il y a aussi un très beau niveau, et notamment à Toronto.
Pour être complet, il y a une équipe française en première division anglaise déjà.
Oui, c'est ça, ouais. Et les Dragons catalans qui sont à Perpignan.
Perpignan. Et comment sont vus les clubs français, Perpignan, Toulouse, dans un championnat anglais? On est bien vus en Angleterre? Pas trop.
On est assez bien vu, si ça va. Ouais.
Ça va,
mais
ça commence,
on est un peu le club à battre. Ouais. Ouais. Donc,
Parce que c'est Toulouse et c'est réputé Toulouse dans le rugby ou
parce que c'est Toulouse et c'est une équipe française déjà. Et on produit un jeu assez plaisant. Donc,
Maxime Brossard.
Et est-ce que Toronto, qui finalement est un club étranger aussi, mais finalement qui est anglophone, on va dire, est-ce qu'ils sont peut-être pas un petit peu mieux vus que vous qui êtes les Français, donc un peu l'ennemi historique des Anglais, quoi?
Je pense que Toronto, leur problème, c'est qu'ils n'ont pas de formation. Donc nous, on est là pour la formation française. Oui. Donc on représente aussi le rugby à 13 français. Et au niveau mondial, vaut mieux qu'il y ait plusieurs équipes fortes en France, pour notamment l'équipe de France, et apporter au 13 mondial une forte nation.
D'accord.
Justement, au niveau de la sélection, on est comment au niveau de l'équipe de France de rugby à 13 aujourd'hui?
Champion d'Europe 2018, vous y êtes.
C'est ça, en
plus.
C'est ça. En Europe, on est bien. Il y a l'Angleterre qui est un cran au-dessus. On a perdu en amical contre eux, qui est une très forte formation.
Forcément,
ils sont dans le top 3 mondial. Et ils ont beaucoup de joueurs qui partent jouer en Australie, donc ça facilite aussi d'avoir une équipe forte. Et ensuite, il y a bien sûr l'Australie et la Nouvelle-Zélande, et après toutes les îles autour.
Fidji, ils sont pas mal, non?
Oui, ils sont très forts. Ouais.
Vous êtes donc dans un championnat anglais, la réserve est dans dans le championnat de France. Il y a un énorme écart entre le premier niveau en France et le second niveau en Angleterre. On voit déjà l'énorme différence.
C'est élite 1, le niveau en France, c'est ça.
C'est ça, élite 1.
Ben, il est différent au niveau du système de jeu, parce que les Anglais, c'est très fermé. Ils complètent leur chaîne de tenue, ils vont jusqu'au 5e, ils tapent, ils font très peu de fautes. Ils essayent justement que toi, tu fasses la première faute, donc c'est complètement différent. Et tandis qu'en France, on est plus un peu plus rugby champagne, je veux dire.
Dans l'équipe du Théo, est-ce qu'on retrouve beaucoup de joueurs étrangers? Et j'ai envie de poser la question aussi suivante déjà. Est-ce que, par exemple, à Toronto, on a beaucoup de joueurs canadiens ou est-ce qu'ils vont chercher beaucoup de joueurs étrangers?
On a des étrangers à Toulouse. Je pense que c'est une bonne chose parce qu'ils apportent d'une part leur expérience en Australie, en Nouvelle-Zélande ou en Angleterre. Et ils apportent aussi à la formation française un plus. Donc ça, c'est très bien. Tandis que Toronto, ils n'ont que des étrangers, en fait.
Ouais, c'est
ils
ça.
Ont zéro Canadien. Ils ont zéro Canadien.
C'est un peu des mercenaires, quoi.
Ils n'ont que des Anglais et des stars d'NRL.
Mais ils ont des moyens.
Ils ont beaucoup de moyens.
Ça joue en France, ça joue en Angleterre, ça joue même en Australie, vous l'avez dit. Est-ce que les règles sont les mêmes d'un pays à l'autre? On pense un peu au hockey sur glace. On avait reçu Eddie Martin, l'entraîneur du hockey sur glace, qui nous avait expliqué qu'entre les États-Unis, le Canada et puis l'Europe, certaines règles pouvaient changer. Entre l'Angleterre, l'Australie et la France, ce sont les mêmes règles? Ou il y a des variantes?
Le championnat australien, ils essayent de faire... c'est eux qui sont... Qui font de la nouveauté.
Qui impulsent un petit peu.
Voilà. Ils impulsent et l'année suivante, le reste suit. En gros.
Du coup, là, pour l'instant, il y a des petites différences où il y a toujours une année d'écart.
Ça
change souvent comme au rugby à 15.
C'est très peu. Sur le contrôle du tenu, pour que ça aille plus vite, par exemple. Ouais. Et là, la nouveauté cette année, c'est à chaque fois qu'il y a une mêlée ou qu'on doit taper en touche, on est chronométré. Du coup, on est obligé de jouer vite, en fait.
Ah, oui.
Donc, le temps. Le jeu effectif va être encore plus
comme le disait Maxime, c'est le rugby à 15 aussi qui suit derrière, parce qu'on essaye aussi dans le rugby à 15 d'aérer le jeu et de le rendre le plus rapide, quoi.
Vous êtes, on le répète pour nos auditeurs, rugby à 13. Si on doit comparer avec le rugby à 15, quel est le niveau, et est-ce que tout simplement on peut faire une comparaison sportive, je parle? C'est compliqué.
On peut faire une comparaison sportive,
le Théo contre le Stade Toulousain, par exemple. Par exemple,
il faudrait le faire. Impossible. Mais je pense que ça serait bien aussi, ouais.
Bah, s'il jouait à 15, le Stade Toulousain gagnerait. Et s'il jouait à 13, le Théo gagnerait.
Mais je pense que
c'est court, les mecs du 13. Hein. C'est les athlètes.
Non, je pense que ça ferait ça. Ouais, bah oui, ça parce que les règles à 15, c'est vraiment différent. Les rucks, les mêlées, nos piliers, ils poussent pas les mêlées, donc je pense que ça leur ferait drôle.
Physiquement, c'est... Alors, j'emploie peut-être le mauvais terme, c'est moins dur, plus facile, je sais pas comment le tourner.
C'est l'inverse.
Cherche pas, ouais. C'est compliqué.
En fait, je peux pas dire si c'est moins dur ou plus dur, parce que j'ai jamais fait de rugby à 15, mais là où on peut voir, c'est que c'est physiquement, je pense qu'au niveau du cardio notamment, c'est
meilleur.
C'est plus
qu'on court beaucoup plus.
Il s'arrête jamais, l'équipe.
Et c'est vrai que les temps de jeu.
Maxime Brossard.
Pour avoir eu la chance de pouvoir couvrir des matchs de rugby du Théo et pour voir aussi le Stade Toulousain, pour avoir joué au rugby à 15, le 13, c'est nettement plus exigeant, quoi. Les joueurs sont plus techniques, plus rapides, plus puissants. C'est les athlètes qui sont plus complets, on va dire.
Après ils sont peut-être un peu moins solides s'ils prennent un choc.
L'a dit Paul très justement, c'est pas les mêmes phases de jeu, donc finalement c'est un peu dur de comparer. Mais je pense qu'intrinsèquement, athlétiquement parlant, un joueur de 13, il est
c'est un plus,
quoi,
bel athlète. Après sur le plaquage notamment,
c'est pas les mêmes plaquages, quoi, donc il peut en parler.
Ouais, au niveau du plaquage, c'est aussi différent. J'ai vu qu'il y avait pas mal de problèmes à 15.
Oui.
Et c'est
plus réglementé à 13.
C'est plus réglementé, mais on est là pour vraiment la santé du joueur aussi. Donc on peut plaquer jusqu'aux épaules. Et il y a plus une phase de lutte parce qu'on essaye de rester debout.
Tandis qu'à 15, il faut
être un peu par terre. Ouais.
Ouais,
et justement, j'avais une question un peu technique sur ça. On voit beaucoup, justement, le 15 qui a repris un peu ce plaquage au 13, là, le chair tackle pour bloquer le joueur en haut pour éviter qu'il passe les bras. Est-ce qu'il y a des 15istes sont venus vers vous pour avoir des conseils et tout? Parce que généralement, quand on voit des 15istes tenter de plaquer comme des 13istes, c'est une catastrophe. C'est pour ça qu'on a vu beaucoup d'accidents. Est-ce qu'ils vous ont posé des questions ou
Alors à Toulouse, il y a eu personne, mais je sais que on a fait un entraînement commun avec les Sydney Roosters, champions d'Australie, champions du monde cette année, à Paris, et j'ai vu qu'il y avait quelques quinzistes et notamment un joueur du 7 aussi, qui était là. Donc je pense qu'il s'en inspire aussi. Mais sinon à Toulouse, personne n'est venu.
D'accord.
Après, ce qui est différent aussi, c'est qu'on fait pas mal de luttes.
Ouais.
Parce que la lutte, ça se rapproche vraiment de notre plaquage.
Ça se voit, ouais.
Et du coup...
C'est un invité qu'on a vu, je crois, c'est Anthony Réa, donc, qui vient vous voir.
Oui, c'est ça.
Ouais, ouais. On l'avait vu ici. Ouais.
C'est notre prof de lutte.
Ok.
On repart sur le championnat pour terminer. Comment se déroule une saison? Vous êtes en deuxième division. Comment on monte en première division?
Alors, d'abord, il y a la phase régulière, match aller-retour sur l'ensemble du championnat et toutes les équipes. Et ensuite, on a les play-offs. Et c'est les 5 premiers, je crois. Et le champion du championship pourra monter en Super League. Il n'y en aura qu'un.
Les chances du Théo d'accéder à cette première division rêvée, elles sont importantes cette année?
Oui, je pense qu'elles sont très importantes.
C'est l'objectif, clairement.
Ouais, c'est l'objectif. L'objectif, c'est de monter en Super League. Il y a Toronto, Winness qui vont vouloir aussi cette place. Mais nous, c'est vraiment un objectif et on va tout faire pour y arriver. On ne dit pas que ça ne va pas être facile, mais on va tout faire pour y arriver. On va y arriver, j'espère.
Pour les playoffs, c'est le 4e contre le 5e, le 2e contre le 3e, le perdant joue contre le 1er. Enfin, c'est quelque chose comme ça.
Oui, c'est ça.
C'est ça.
C'est ça.
Lucas Serdic.
Ouais, j'avais une question. Une fois que vous y êtes, est-ce que ça existe une compétition de club international? Vous avez parlé tout à l'heure d'une équipe australienne qui était championne du monde. C'est l'équivalent de la Ligue des Champions pour le foot, par exemple, ou c'est encore autre chose?
C'est encore autre chose. En gros, c'est... Là, cette année, il y avait le champion de Super League, donc première division anglaise, et champion de NRL, première division australienne, qui s'affrontaient à Wigan, donc chez le champion de Super League.
Ouais.
Et du coup, là, c'est les Australiens qui ont gagné.
Il y a aussi une coupe, il me semble, une coupe de la Ligue, un truc comme ça, non? C'est pas ça? En Angleterre, non? Il n'y a pas la coupe, quoi, la cup, non?
Oui, c'est ça. Et en plus, les Dragons, ils ont... Enfin, le club de Perpignan a gagné...
Qui l'a gagné, oui.
Voilà,
c'est ça.
C'est bien ce qui me semblait. C'est ce qui me semblait.
Pour terminer, déplacement ce week-end à Bradford. L'idéal, bien évidemment, c'est de s'imposer avant de recevoir Toronto, qui est leader du championnat.
Oui, c'est ça. On veut bien préparer ce match de Toronto qui se fera à Ernest Vallon le 9 mars. C'est primordial pour nous.
Oui, Ernest Vallon en plus, oui.
Plus à Ernest Vallon, donc c'est
Paul
très important.
Ouais. Paul Rolera. Paul, merci beaucoup.
Merci à vous.
Merci d'avoir été avec nous. Bonne continuation avec le Théo 13. Pour nous, messieurs, c'est déjà terminé. Merci à Grégoire et Coraline à la réalisation. Retrouvez demain dès 7h Rémi Souloumiak, Isabelle Honeil et Corinne Saint-Félix. À 9h, Vivante Église avec Emmanuel Pella. Nous, on se retrouve lundi prochain. Bonne semaine avec Radio Présence.
Au revoir.
Salut.
Au revoir.
Tous les matins, l'évangile du jour est commenté par un prêtre de la région.
L'évangile.
Un rendez-vous pour se nourrir et se ressourcer à 6h50, 7h50 et 8h50. 6h50, 7h50 et 8h50.